Saint-Esprit. Amen. 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 On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 38, et nous lirons au verset 1er. Exode, chapitre 38, et nous lirons au verset 1er. Exode 38, verset 1er. Quand vous avez trouvé, dites Amen. Vous avez trouvé ? Bravo. Vous êtes rapide, c'est bien. Nous lisons, « Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Sa longueur était de 5 coudées, sa largeur de 5 coudées. Il était carré et sa hauteur était de 3 coudées. Il fit aux 4 coins des cornes qui sortaient de l'autel et il le couvrit d'airain. Il fit tous les ustensiles de l'autel et les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brasiers. Il fit d'airain tous ses ustensiles. » Il fit pour l'autel une grille d'airain en forme de treillis qu'il plaça au-dessous du rebord de l'autel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Il fondit 4 anneaux qu'il mit aux 4 coins de la grille d'airain pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'airain. Il passa dans les anneaux aux côtés de l'autel les barres qui servaient à le porter. Il le fit creux avec des planches. Amen. Il fit la cuve d'airain, c'est encore autre chose, avec sa base d'airain, en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Je vais parler ce matin de quelque chose de particulier. Ici, ce passage est relaté dans un contexte bien précis, c'est Israël dans le désert, et Moïse, sur les instructions du Seigneur, va construire le tabernacle. Il va le construire non pas selon les fantaisies ou suivant les fantaisies de son esprit, mais il va le faire en suivant les directives du Saint-Esprit, les directives de Dieu, selon qu'il est écrit à plusieurs reprises, fait d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et le but ultime du tabernacle était de rencontrer Dieu. Parce que Dieu a toujours voulu venir à la rencontre de sa créature, à la rencontre de ses enfants. L'homme, on le sait, dès le jardin d'Éden, a malheureusement tourné le dos à Dieu et Dieu n'a eu de cesse d'appeler l'homme « Adam, où es-tu » pour aller le rejoindre dans ses douleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, dans ses larmes, dans ses souffrances. Bien. Et Moïse va donc faire cela de façon très scrupuleuse. Il va être fidèle dans la construction du tabernacle. Chaque élément du tabernacle est en réalité une image, si vous voulez, une image de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de Christ. Mais aussi, c'est pour nous enseigner à adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Amen. La Bible dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus soumis à toutes sortes de rituels contraignants pour nous approcher du Seigneur. Jésus dira, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Et c'est pas une question de méthode, de stratégie, de façon de faire, stéréotypée, de rituels à observer, d'ablution, etc. Mais c'est avant tout une question de cœur devant le Seigneur. Amen. C'est une question de cœur devant le Seigneur. Amen. Dieu dira, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est une relation de cœur avec sa créature. Vous êtes d'accord ? C'est pas mécanique, c'est pas structurel, c'est pas protocolaire, c'est quelque chose de dynamique et de vivant qui doit s'établir entre Dieu et nous. Amen. Toutefois, le Nouveau Testament nous enseigne, c'est Paul qui dit dans les Corinthiens que ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et ici, nous avons lu quelques versets, 7 versets, 8, mais hors contexte, 7 versets qui nous parlent de l'autel des holocaustes. La dernière fois, dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, je vous ai parlé de la qualité de notre foi, l'importance d'avoir une foi de qualité. Et puis, j'ai parlé aussi de cette importance d'aimer les frères. L'apôtre Pierre dit « aimer les frères ». Amen. Vous vous rappelez ? Ici, dans la définition structurelle de l'autel des holocaustes, nous allons parler quelques instants sur l'amour de Dieu. Nous, nous aimons Dieu, nous aimons les frères, mais j'aimerais nous rappeler que Dieu nous aime. Amen. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Vas-y, dis-lui. Vous savez, l'Écriture dit que Dieu est amour. Dieu est amour. L'autel des holocaustes représente le sacrifice de Jésus-Christ. Et ici, il était défini au travers de quatre dimensions. Il est défini au travers, on l'a lu au verset premier, de sa longueur. Sa longueur était de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. Il était carré et sa hauteur était de 3 coudées. Et puis nous avons lu au verset 7, il le fit creux avec des planches. Ce qui veut dire que cet autel des holocaustes avait 4 dimensions. Sa longueur, sa largeur, sa hauteur et sa profondeur. Je ne sais pas si vous faites le rapprochement, mais l'apôtre Paul, dans Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 17, dira ceci. Éphésiens, chapitre 3, verset 17, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Amen. Cet autel des holocaustes nous rappelle les 4 dimensions de l'amour sacrificiel de Dieu envers nous. Vous savez, on n'est pas toujours convaincu d'être aimé par le Seigneur. L'amour des hommes est marqué par l'imperfection. Nous aimons, oui, nous les hommes, mais nous aimons de façon imparfaite. Je relisais l'histoire de Joseph, le patriarche, et on voit par exemple que très tôt, l'Écriture nous dit que son papa va, eh bien, le préférer à ses frères. C'était vrai aussi dans le couple d'Isaac et Rebecca. Chacun avait son préféré, l'un aimait Ésaü et l'autre aimait Jacob. Et à cause de cela, eh bien, ça générait des jalousies, des frustrations. Et ça, c'est l'amour humain. L'amour humain est un amour imparfait, marqué souvent par le favoritisme, l'incapacité aussi à aimer. C'est pas facile d'aimer. C'est pas facile d'aimer en retour. Alors, c'est facile d'aimer les gens sympathiques. Mais Jésus, vous vous rappelez, nous a dit d'être parfait, comme le Père céleste est parfait. Bon, vous allez me dire, nous sommes un club d'imparfaits. C'est l'objectif. Mais quand il dit ça, il nous rappelle cela dans le cadre de l'amour pour nos ennemis, c'est-à-dire l'amour pour les gens qui nous font du mal, pour les gens qui ne sont pas sympathiques avec nous. J'étais dans une famille cette semaine et puis il y avait une enfant et puis je lui disais alors comment ça se passe, comment s'est passée ta rentrée. Elle dit ben ça va, je me suis fait une copine et cette année j'ai que une ennemie. Alors à l'école on peut avoir des ennemis et des fois dans la vie, même adulte, il y a des choses, il y a des circonstances qui peuvent nous amener à avoir des difficultés à aimer l'autre. Alors je disais que l'amour de l'homme, l'amour des humains, notre amour à nous, est imparfait. Malgré notre bonne volonté, voyez, c'est l'échec de l'apôtre Pierre qui pourtant dira à Jésus « J'irai pour toi en prison et même jusqu'à la mort ». Mais en réalité, face à la pression, son amour n'a pas résisté. Par contre, l'amour de Dieu est un amour parfait. Dis à ton voisin, l'amour de Dieu est parfait. Allez, vas-y, dis-lui, ça va lui faire du bien. Quand bien même tu n'aurais pas beaucoup de gens qui t'aiment, ça peut arriver qu'on n'ait pas beaucoup de gens qui nous aiment. Quand bien même tu te sentirais mal aimé comme Léa, qui se sentait mal aimé par son mari, parce que lui, il aimait une autre, il aimait Rachel. Alors elle se sentait frustrée, et la Bible dit que Dieu l'a vu. Il a vu son manque d'amour. Mais l'amour de Dieu est parfait. En fait, je dirais, quand tous les amours d'en bas nous auront déçus, l'amour de Dieu ne nous décevra jamais. L'amour de Dieu ne nous décevra jamais. Voilà pourquoi il est important d'avoir une relation intime avec Dieu. Si tu veux être bien dans ta peau, si tu veux te savoir aimer, te sentir aimé, pas de temps en temps, mais tous les jours, et être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, il faut que tu connaisses, que tu aies une relation vivante avec Dieu, que tu sois enraciné, fondé dans son amour. Et vous savez, nous aurons toute l'éternité, parce que cela, ce sont des images, évidemment. L'amour de Christ qui est allé à la croix, l'autel des holocaustes, là où Jésus a été sacrifié comme un vulgaire criminel. En réalité, il n'y a pas de plus grand amour, disait Jésus, que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus allait sur la croix pour donner sa vie pour toi et pour moi. Et là, il a été embrasé par le feu de la colère de Dieu pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Et c'est ce que nous célébrons tous les dimanches. Amen. L'amour de Dieu, l'amour manifesté de Dieu. Et si ce coffre, si vous voulez, ou cet autel, ce barbecue, avait des dimensions limitées, mesurables et mesurées, mais nous devons savoir, selon ce que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 3, 17, 18 et 19, c'est que l'amour de Dieu est illimité. Amen. Dieu est amour et son amour est illimité. Et l'amour de Dieu est large. Dieu a le dos large. L'amour de Dieu est large. L'amour de Dieu nous accueille. L'amour de Dieu accueille l'autre. L'Écriture nous dit dans Luc 15 que Jésus accueillait les gens de mauvaise vie. Voyez, la religion exclut. Il y a des gens qui, la Bible dit, dans les temps de la fin, ils vous excluront de leur synagogue. Synagogue de Satan, ils vous excluront, ils vous rejetteront. Mais l'amour de Dieu ne nous rejette pas. Il nous accueille. quand bien même on aurait fait les 400 coups, quand bien même on serait tombé dans la prostitution, dans la vulgarité la plus basse, parce que la Bible dit qu'il y avait auprès de Jésus des gens de mauvaise vie, mais Jésus a révélé l'amour du Père. Amen. Et le Fils prodigue l'a bien compris, la largeur de l'amour de Dieu. Quand il est revenu, l'Écriture nous dit que le Père est sorti à sa rencontre. En courant, il est allé vers lui et il a embrassé, il a couvert de baisers. On peut dire amen à cela. L'amour de Dieu, oui, on peut acclamer Jésus, est large. L'amour de Dieu est long, la longueur. Est-ce que Dieu n'est pas patient ? La Bible dit que notre salut, c'est la patience de Dieu. Des fois, avec les enfants, pour vous qui êtes parents, il vous est peut-être arrivé de perdre patience parce que vous avez répété une chose et puis la chose ne s'est pas faite comme vous vouliez qu'elle se fasse. Alors vous vous êtes mis en colère, vous avez pété un câble, il y en a un qui dit non jamais, mais en plus tu mens. Et donc... Parfois, on pète les câbles parce que notre patience à nous, un mot du Nouveau Testament, notre longanimité à nous est limitée. Mais l'amour de Dieu est parfait. Dieu, dans son amour, est patient avec nous. Peut-être que nous, parfois, nous perdons patience avec les gens. Parce qu'ils n'en sont pas là où ils devraient être. Et souvent, Paul disait aux Corinthiens, l'apôtre Apollos, probablement, ou Paul, on ne sait pas, disait aux Hébreux aussi, avec le temps, vous devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous donne le biberon. Il y a un genre d'immaturité qui s'est installé, révélé par des comportements, jalousie, querelle, etc. C'est les marques de l'immaturité. Et Paul, comme un papa spirituel, va dire « Stop, arrêtez ça !» Alors on peut perdre patience parfois, mais Dieu ne perd pas patience avec nous. L'amour de Dieu attend. Il attend que le dernier élu soit rentré dans l'arche du salut pour revenir bientôt. Amen. On peut parler également de la profondeur et de la hauteur de l'amour de Dieu. Quelle profondeur dans l'amour de Dieu. Un amour profond qui va nous rejoindre dans nos plus grandes solitudes, dans nos plus grandes détresses. Et la hauteur, cet amour magnifique, il est venu nous chercher dans la boue, dans le fumier, nous dit l'Écriture, et il nous a fait asseoir, où ça ? Avec les grands. L'Écriture dit que ceux qui sont en Christ sont assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est par où ça ? Par sa mort sur la croix. Il nous a pris de notre fumier, je ne vais pas dire l'autre expression pour que tout le monde comprenne, mais il nous a pris dans notre misère, dans notre souillure, on sentait mauvais, comme le fils prodigue. On était avec les cochons, ça puait, mais son amour nous a accueillis, son amour nous a pris et son amour nous a réinstallés. Avec lui, dans nos droits, dans une position de victoire, sur Satan, sur le diable, sur les démons. Et aujourd'hui, l'église de Saint-Étienne du Rouvray est assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que nous enseigne l'autel des holocaustes, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu vient nous chercher quand on se sent pas digne, quand on se sent misérable. « Je ne suis plus digne, disait le fils prodigue, d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, comme un vulgaire serviteur. » Mais le père dit « Non, tu n'es pas un esclave, tu es mon fils. Et même si tu as fait des bêtises, même s'il y a encore des imperfections chez toi, mon amour à moi, il est parfait et mon plan, c'est de t'élever dans une position de vie, de foi, de victoire, de grâce et de triomphe dans le nom de Jésus. Amen. » Amen. Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu vous aime? Ok, je passe au deuxième point parce que maintenant je vais vous parler d'argent. Il est fort ce pasteur. Non, je blague. Enfin, je blague pas tellement. Exode 38, verset 21. On est toujours dans le désert avec Moïse qui nous parle de l'amour de Dieu. Et comme aujourd'hui, c'est un jour d'assemblée générale, on va lire ceci, on continue dans cette lecture d'Exode au verset 21 maintenant. Parce que dans quelques instants, pour ne pas dire dans quelques minutes, nous allons basculer dans ce qu'on appelle l'assemblée générale de l'association cultuelle de l'Église. C'est tout aussi important que les choses spirituelles. Je répète, les choses pratiques, les choses matérielles de l'œuvre de Dieu sont tout aussi importantes que les dons spirituels, que l'amour de Dieu, que la victoire sur les démons, que la sanctification, que la prière, que la foi, etc., etc. C'est tout aussi important. Nous lisons ceci, Exode 38, verset 21. Voici les comptes du tabernacle. Du tabernacle d'assignation. Donc, Moïse vivait en toute transparence, comme nous également. Vous avez le droit, nous avons le droit de savoir combien le pasteur, les frères gagnent. Aujourd'hui, il y a 7 salariés, ou plus exactement 6 salariés et un prestataire. Vous avez le droit de savoir à quoi vont vos offrandes, etc. etc. C'est légal et nous n'avons rien à cacher. Voici les comptes du tabernacle d'assignation révisé d'après l'ordre de Moïse par les soins des Lévites sous la direction de Itamar, fils du sacrificateur, cherchez Brekini, tout ça, mais je n'ai pas trouvé. Direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron, Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il eut pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac de la tribu de Dan, habile à graver, à inventer et à broder sur les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et sur le fin lin. Le total de l'or employé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire, or qui fut le produit des offrandes, se montait à 29 talents et 730 sicles selon le sicle du sanctuaire. L'argent. Dites « argent ». L'argent de ceux de l'assemblée dont on fit le dénombrement se montait à 100 talents et 1775 cycles selon le cycle du sanctuaire. Je fais juste une pause pour expliquer quelque chose, parce que des fois, dans le peuple de Dieu, les gens ne sont pas au courant de ça. Vous savez, des fois, on a entendu parler du dénombrement de Moïse. De David, pardon, le dénombrement de David, quand il l'a fait, on sait que Dieu a frappé les Hébreux, a frappé le pays. Et on se dit, oulala, il ne faut pas compter. Vous vous rappelez de cela? Il ne faut pas compter. En fait, la faute de David n'a pas été de compter par orgueil, ce n'est pas ça. La faute de David, c'est qu'il n'a pas fait payer par personne le dénombrement, pour que, en fait, quelqu'un soit acté membre, si vous voulez, de l'Assemblée, il fallait qu'il paye en argent. Et ça, c'est le symbole, c'est l'annonce que pour pouvoir intégrer le corps, il faut avoir été au bénéfice du sang de Jésus qui nous rachète de nos péchés. Si l'Église est constituée de gens qui ne sont pas sauvés, ce n'est pas l'Église. L'Écriture dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église, ça signifie rassemblement, ecclésia, appelé hors d'eux. C'est le rassemblement de ceux qui sont sauvés. Comment on est sauvé? Par la grâce en Jésus-Christ, par l'œuvre du calvaire, par le sang de Jésus-Christ. Si je ne suis pas passé par la croix, je ne suis pas un membre du corps de Christ. Je peux faire partie, je peux être membre d'une association, mais je ne suis pas un sauvé légitime. Et ça, Dieu le condamne. Bon, je vous expliquerai plus tard, peut-être. Verset 26. C'était un demi-cycle par tête, la moitié d'un cycle selon le cycle du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes. Comment on sait ? Ils ont compté. Verset 27, « Les 100 talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile. 100 bases pour les 100 talents, un talent par base, et avec les 1775 cycles, on fit les crochets, les tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux. L'airain des offrandes se montait à 70 talents et 2400 cycles. On en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation, l'autel d'airain avec sa grille, je termine, et tous les ustensiles de l'autel, les bases du parvis tout autour et les bases de la porte du parvis et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis. » Amen. Nous avons lu au verset 27, en fait, dans ce texte, lorsque les comptes sont exposés, on voit la gestion de l'or, la gestion de l'argent, la gestion de l'airain. Nous fonctionnons avec l'argent. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous donnent des lingots d'or, même si c'est arrivé, mais en règle générale, nous fonctionnons avec l'argent. Et vous avez noté une petite expression, les 100 talents d'argent servir. Servir. Et ça me fait penser à ceci. C'est que Dieu a béni Israël. Dieu a béni les Juifs, les Hébreux. Ils ont dépouillé les Égyptiens de leur richesse. Et ils sont devenus riches grâce aux richesses des Égyptiens. Donc la volonté de Dieu, c'est de nous bénir, c'est de nous faire du bien. D'ailleurs, même si je sais que ce n'est pas la seule vérité, mais pour moi c'est une vérité, c'est qu'un des signes, ce n'est pas le seul évidemment, mais un des signes de la bénédiction de Dieu, c'est aussi, c'est un signe. Isaac sema dans ce pays, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Vous allez me dire, mais pasteur, il est écrit heureux les pauvres. Oui, mais en esprit. Car l'Éternel le bénit. L'Éternel le bénit. Et verset 13, Genèse 26, verset 13, cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Les gens autour, il va avoir des problèmes. Moi, j'ai cru naïvement que quand on est béni, Camille, j'ai cru qu'on allait se faire des amis. En fait, non. On suscite l'envie et la jalousie. Et les gars autour, ils vont commencer à être vénères parce qu'il était béni. Et une des marques de la bénédiction de Dieu, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, esprit, âme et corps. La volonté de Dieu n'est pas que nous vivions dans la misère, mais il désire pourvoir à nos besoins. La Bible dit « Mon Dieu », c'est Paul qui le dit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Selon sa richesse, à qui est l'or et l'argent ? Selon sa richesse, donc est-ce que Dieu manque d'argent ? Non. Selon sa richesse et avec gloire. Alléluia ! Alléluia, pasteur Yvan. Maintenant, j'aimerais donner un principe pour m'arrêter là, parce que vous allez vous dire, ce pasteur, qu'est-ce qu'il est, comment on dit, cupide ? Je ne suis pas cupide, parce que dans le même contexte, Paul dira, j'ai appris à être. J'ai appris à être content dans l'abondance et la disette. Parce que mon bonheur ne dépend pas des bénédictions d'ici-bas, mon bonheur dépend de la relation avec Dieu. Mais n'empêche que Dieu veut pourvoir à nos besoins selon sa richesse et avec gloire. Amen. Et puis Paul dira à certains moments, certaines églises sont entrées en compte avec lui et d'autres pas. Mais peu importe, Dieu a toujours pourvu à ses besoins. Et il a appris à être content dans l'état dans lequel il se trouvait. C'est important. Afin que chaque chose soit à leur place, en fait. Vous savez, L'idolâtrie, c'est quand une chose, ça peut être même quelqu'un, une relation peut être idolâtre. Une idolâtrie, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu dans ta vie. Et l'argent, donc nous avons lu au verset 27, les 100 talents d'argent servir. L'argent doit être un bon serviteur. L'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Parce que quand on commence à aimer l'argent, comme Judas a aimé l'argent, le problème n'est pas d'être riche, le problème n'est pas d'avoir de l'argent, le problème c'est d'aimer l'argent plus que Dieu. Et quand on n'aime pas l'argent plus que Dieu, quand chaque chose, les relations, le travail peut être une idole, un enfant peut être une idole, l'argent peut être une idole, un poste, un statut, je suis pasteur, et alors on s'en fout, tout le monde s'en fiche. Nous, parfois, nous mettons de l'importance sur certaines choses, mais la vérité, c'est sans importance. Tout ça, ce sont des moyens, mais le but doit toujours être la gloire de Dieu. Alors, quand on a compris qu'on appartient à un ensemble, à un corps, que l'église de Moïse qui traverse le désert, qui doit aller dans le pays promis, doit aussi, pour construire les œuvres de Dieu, s'investir, investir de son argent, quand on le fait avec une bonne mentalité, Dieu bénit et Dieu honore. Alléluia ! Est-ce qu'on peut dire Amen ? Vous allez voir tout à l'heure, ça, c'est un truc de fou, hein. C'est pas pour se glorifier, mais c'est pour donner gloire à Dieu. On est béni. Dis à ton voisin, l'église ciel ouvert est bénie. Allez, vas-y, dis-lui, l'église ciel ouvert est bénie. Ça fait 10 ans, frères et sœurs, Covid, pas Covid, ça fait 10 ans, on est dans notre 10e année, 10 ans, Seigneur, 10 ans que l'Église ne cesse de croître financièrement. Amen. Ça fait 10 ans qu'on baptise des gens, ça fait 10 ans qu'on prêche la parole de Dieu, ça fait 10 ans qu'on adore le Seigneur, chaque chose à sa place. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et je termine avec cette lecture, et peut-être le pianiste qui peut me rejoindre sur l'estrade. Matthieu 6, verset 19 pour nous, peuple de Dieu, parce que je vais vous appeler à dépenser. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » Ça sert à rien. Où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu veux que ton cœur soit dans les affaires de Dieu, commence à semer même matériellement, à avoir de l'intérêt. Tu dis, mais pasteur, j'ai pas beaucoup d'argent. La Bible nous dit que Jésus un jour s'est mis dans le temple à regarder tous ceux qui mettaient de leur superflu, des riches et tout ça. Il y avait une petite veuve dans un coin qui a mis 4 pièces, 4 sous. C'était pas grand chose. Ça n'a pas fait exploser et a fait halluciner l'expert comptable. Mais Jésus a dit, ça a retenu l'attention du ciel parce qu'elle a mis quelque chose. Elle a mis quelque chose. Et il y a certains d'entre nous, on vient dans cette église depuis des années. On bénéficie du ministère, d'une louange excellente, de la parole de Dieu, des projets, on fait des choses et tu n'as jamais rien investi. Tu es comme la sangsue, donne, 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 c'est ce qu'elle dit la sangsue. Donne, 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 prie pour moi, donne, prie, donne, prie. Et donne-toi un peu, donne-toi aussi, donne-toi. Ce n'est pas une question de finance, c'est une question de cœur. Car là, dit Jésus, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu n'es pas là, c'est que tu n'es pas là, c'est pas grave, on fera sans. Mais Dieu cherche ton cœur et ton porte-monnaie. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, c'est-à-dire ta conscience, chaque chose est à sa place dans ta vie. Tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ? Nul ne peut servir. Verset 27. C'est d'Exode 38. Cet argent servit. Qu'est-ce que tu sers ? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Mettons ce que nous avons au service du Seigneur et glorifions-le, parce que l'argent, c'est vrai, c'est un bon serviteur, ça fait avancer l'œuvre de Dieu. On peut faire des projets, on peut bâtir le royaume de Dieu, mais c'est un mauvais maître. Être avare, Jésus a condamné l'avarice, il y a les péchés de l'argent. C'est pas bien. Demandons à Dieu d'être libre. Vous savez, il y a trois choses qui peuvent faire tomber les hommes. Le pouvoir, le sexe et l'argent. C'est pas compliqué. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Amen. On va se mettre debout quelques instants dans la présence de Dieu. Alléluia, 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 Seigneur. Seigneur, merci. C'est pas fini, frères et sœurs. Je sais que vous devez peut-être partir les uns les autres, mais c'est pas fini. On a un moment devant l'Éternel, devant le Seigneur. Seigneur, nous sommes là dans ta présence et nous te demandons, notre Père, de nous révéler ce matin, comme tu l'as révélé à l'église de Moïse, ton amour. Tu vois tous ceux qui se sentent mal aimés, rejetés, exclus. Seigneur, ton amour est parfait. Notre amour à nous est limité, insuffisant, et on sera toujours comme la femme samaritaine buvant à des citernes crevassées. Tu es le seul, Jésus, qui puisse satisfaire nos âmes, satisfaire nos cœurs. Et nous te demandons pardon d'avoir été séduit et d'être allé boire à des sources qui ne satisfont pas. L'amour des hommes ne nous satisfera jamais, seul l'amour de Dieu. Et Seigneur, révèle-nous encore les dimensions de ton amour. Et Seigneur, ce matin, nous voulons être aussi sérieux. Nous voulons exposer les comptes. Les comptes. Tu comptes sur nous, Seigneur. Tu comptes sur moi, Seigneur. Tu comptes. Il compte. Est-ce qu'il faut donner sa dîme ? Oui, il faut donner sa dîme. Est-ce qu'il faut donner ses offrandes ? Oui, il faut donner ses offrandes. Je vous le dis, non pas parce que je suis intéressé, mais parce que je prêche toute l'Écriture. Ça fait partie, l'argent, d'un sujet fondamental qui peut-être pour toi est tabou, mais rien n'est tabou pour Dieu. Et Dieu expose ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Et nous voulons être des gens généreux pour l'œuvre de Dieu. Généreux pour le Seigneur. Donner comme il a donné, consacrer comme il a consacré, comme cette petite veuve. L'important n'est pas le montant, l'important c'est l'attitude de cœur qui s'offre à Dieu entièrement. Amen. Seigneur, je te prie maintenant pour le peuple, je te prie pour l'Église, je te prie pour ceux qui nous regardent sur le net, je te prie, Saint-Esprit, que ces paroles viennent se graver dans les cœurs. Au nom de Jésus, et que des vies soient bénies ce matin, soient transformées par la puissance de la parole de Dieu. Amen. Et on acclame Jésus. Amen, amen, amen. Amen.